Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Mathieu Valbuena, bien présent ce matin à l'ouverture du procès dans l'affaire de la sextape. Éric Zemmour, arme au poing au salon Millipol. L'image, vous l'aurez fait beaucoup réagir. Et puis Kylian Mbappé, lui, sera bientôt parrain. De qui? Réponse dans un instant.
Deux sujets, deux débats à partir de 12h40. La hausse des carburants, en quelques jours, c'est devenu l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Alors, qui propose quoi? Et puis à 12h50, les déserts gynécologiques. Je l'ai dit, 13 départements n'ont aujourd'hui plus du tout de gynécologues. Coup de projecteur sur une réalité qui touche des millions de Français.
Notre question du jour sur RTL.fr, flambée des prix du carburant. Utilisez-vous moins votre voiture? Vous dites non à 53%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Ça y est, l'été indien, c'est terminé.
Eh bien oui, une vraie journée d'automne avec beaucoup de nuages, des averses plus marquées cet après-midi entre le Bordelais et la Lorraine, des averses qui vont se réactiver sur la Bretagne et le vent qui est bien présent sur toute la moitié nord. Notez que le Finistère, le Morbihan et la Manche sont en vigilance orange pour vent fort. Et dans le sud, entre l'ouest PACA et le Languedoc, un ciel bien chargé, mais vous profiterez encore du soleil dans le sud-ouest et sur la façade est. Les températures en légère baisse au nord, normal, de 17 à 21 degrés, ça reste quand même doux pour la saison. Et jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, direction le palais de justice de Versailles. C'est là que s'est ouvert ce matin le procès de l'affaire de la sextape, cette histoire de tentative de chantage. Audience sans Karim Benzema, mais en présence, et c'est une surprise, de Mathieu Valbuena, Alice Moreno.
Oui, le joueur de l'Olympiakos s'accroche fermement à la barre, chaussée de baskets blanc et or, ornée du logo du Real Madrid, comme un étonnant clin d'œil à Karim Benzema. J'ai eu peur pour ma carrière sportive, peur pour l'équipe de France, le foot, c'est toute ma vie. Mathieu Valbuena craignait que l'affaire de la sextape ne balaye son avenir en bleu. Ça s'est vérifié par la suite, d'ailleurs, ajoute-t-il. Face à lui, 4 maîtres chanteurs occupent les bancs des prévenus, des concierges de joueurs qui travaillent dans l'ombre de sportifs richissimes, leur rendent de petits services. Et à leur côté, un des meilleurs amis de Karim Benzema, un dénommé Zenati. Le joueur du Real, lui, est le grand absent du procès. Il était encore en Ukraine hier soir pour un match et prépare une autre rencontre importante ce dimanche. Une absence que déplore l'avocat de Valbuena. Benzema, qui clame son souhait depuis des années d'être confronté à mon client, il en tirera les conséquences.
Alice Moreno, palais de justice de Versailles pour RTL.
Autre chose à présent, le débat autour de la hausse des prix du carburant.
Et alors qu'à l'Élysée, les arbitrages sont encore en cours, Force ouvrière réclame la mise en place d'une prime pour les salariés, prime qui serait versée par l'entreprise.
Il faut absolument qu'on ait un dispositif national, interprofessionnel, qui conduise à ce que systématiquement les salariés qui utilisent leur véhicule bénéficient d'une compensation sous la forme d'une prime transport, et en particulier qui couvre la hausse exceptionnelle actuelle et qui soit pérenne. Il faut aller au-delà des 200 euros par an par salarié, mais je rappelle aussi qu'il nous semble indispensable qu'on augmente plus largement les salaires.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Dans ce contexte, le gouvernement va sans doute décider de prolonger les primes pour l'achat de véhicules électriques au même niveau, en tout cas Christophe Bourreau.
Ah oui, concrètement, si vous achetez une voiture électrique, la prime devrait donc rester à 6 000 euros, alors qu'elle devait baisser et passer à 5 000 euros au 1er janvier prochain. Un coup de pouce qui pourrait être prolongé jusqu'en juin. C'est aussi valable pour les véhicules de société, dont le bonus serait maintenu à 4 000 euros. À noter que les hybrides rechargeables pourront aussi bénéficier de ce sursis et garder une aide de 1 000 euros, car avant la flambée des prix de l'essence pour le ministère de l'écologie, il était normal que ce bonus, qui était encore de 7 000 euros l'été dernier, diminue au fur et à mesure que les ventes d'électriques augmentent, ce qui est le cas avec une hausse de près de 70% en un an en septembre. La part de l'électrique pure représentait 12% du marché et près de 30% pour les hybrides.
Et alors, pour ce qui est du malus, en revanche, pas de changement?
Non, il sera sévère comme prévu, avec que par exemple une facture plus élevée pour une Dacia Duster. Cela va faire grimper la facture à 330 euros, 100 euros de plus, avec pour les véhicules les plus polluants, là, un malus salé, puisqu'il va passer de 30 000 à 40 000 euros.
Merci beaucoup Christophe pour ces explications.
Le prix des carburants qui s'invite dans la campagne présidentielle sera notre premier débat. Qui propose quoi et surtout combien ça coûterait? Rendez-vous à 12h40 dans 5 minutes.
Ouais, sachez par ailleurs que le premier débat entre les candidats à l'investiture des Républicains aura lieu sur RTL. Ce sera le 8 novembre en partenariat avec LCI et Le Figaro. Éric Zemmour, lui, était ce matin au salon Millipol, salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Le polémiste a pris la peau, arme au poing et n'a pas hésité à viser des journalistes, Hortense Crépin.
Oui, Éric Zemmour teste ce matin du matériel utilisé par les militaires quand il s'approche d'un stand et essaye un sniper, celui utilisé par le RAID.
Ça rigole plus, reculez,
dit le polémiste en souriant. La scène dure quelques secondes sous les yeux médusés des journalistes qu'il braque en souriant. La visite continue et il est ensuite interrogé sur cet instant totalement improbable.
Je suis dans un salon des armes, donc ça me paraît pas complètement incongru de toucher des armes. Je ne braque pas, vous étiez devant moi, j'aurais braqué n'importe qui comme vous dites, mais je braque personne, vous savez, je menaçais personne.
Un moment horrifiant, selon la ministre Marlène Schiappa. Sur Twitter, elle réagit « Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée ». Là aussi, le candidat, qui ne dit pas encore son nom, réplique.
Marlène Schiappa est une imbécile. Elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Quand on m'attaque, je tape trois fois plus fort. C'est comme ça.
Il tourne ensuite les talons et repart dans les allées du salon. Et quand on lui demande une nouvelle fois quand est-ce qu'il annoncera qu'il est officiellement candidat, la réponse est là, toujours la même, on n'en a aucune.
Hortense Crépin en direct du salon Millipol pour RTL.
Magnifique sujet pour les auditeurs.
Ah oui, qui vont pouvoir réagir
dès 13h. Lorsque le second degré est pris pour le premier, personne n'imagine qu'Éric Zemmour veuille braquer les journalistes. Simplement, les journalistes sont parfois durs contre lui, donc j'imagine qu'il s'en est amusé ce matin, mais ça sera l'opinion des auditeurs qui sera intéressante à écouter tout à l'heure.
Ce drame à présent à Marseille, un drame qui parlera sans doute à beaucoup d'entre vous. Une patiente de 69 ans a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôpital, atteinte de la maladie de Charcot. Elle a été abattue par son mari qui s'est ensuite suicidé, Guillaume Chien.
Oui, cet homme de 71 ans s'est rendu dans la nuit à l'hôpital Nord vers 3h du matin. Il est dans la chambre de sa femme qui est hospitalisée en soins palliatifs. Elle souffre de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui touche aux fonctions motrices du corps. L'homme lui tire une balle au niveau de la tête, retourne l'arme contre lui, se suicide. Sur place, les policiers ont retrouvé une lettre. Le mari explique qu'il est par avance désolé de la tristesse que son acte va susciter, mais que sa femme et lui sont d'accord pour que cela se termine ainsi. Interrogé par les enquêteurs, le personnel soignant a confirmé que la femme était bien en phase terminale. L'hôpital a également mis en place une cellule de soutien psychologique pour ses employés, mais également pour les patients qui ont entendu les deux coups de feu en pleine nuit.
Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit tout à l'heure en urgence après ce nouveau tir de missile nord-coréen. Pour la première fois, Pyongyang annonce avoir réussi un tir depuis un sous-marin. C'est inquiétant ça, Brice Dugénie.
Oui, en tout cas, ce serait une avancée technologique importante. En 2016 et 2019, les Nord-Coréens avaient déjà tiré des missiles depuis la mer, mais depuis des plateformes sous-marines immobiles. Là, depuis un sous-marin, ça a deux avantages. D'abord, les Nord-Coréens garderaient, même en cas d'attaque de leur base terrestre, la capacité à tirer ces missiles. Et ça leur permet également d'être dangereux loin de leur côte, depuis un lieu inconnu, inattendu, ce qui stratégiquement est très différent, évidemment, que de tirer ce missile depuis la Terre. Cela montre que la course aux armements n'a pas cessé en Corée du Nord, que l'obsession de Kim Jong-un de rester une menace pour ses voisins est toujours là. C'est sa crédibilité qui est en jeu, dit-il, pour ne pas être envahi par les Américains. Alors, cela ne veut quand même pas dire que la Corée du Nord est au niveau des grandes puissances. Les spécialistes estiment que ce sous-marin n'est pas très opérationnel, qu'il ne peut pas rester immergé très longtemps, qu'il n'a pas la possibilité de tirer plusieurs missiles. Mais la menace existe et c'est tout ce qui compte aux yeux du pouvoir nord-coréen.
Brice Dugénie du service étranger d'RTL.
Le PSG a gagné, mais le PSG ne convainc pas et on le dit à chaque fois.
Avec une victoire 3-2 hier soir face à Leipzig, tous les regards désormais sont tournés vers Lille. Le LOSC affronte ce soir les Espagnols du FC Séville. Les Lillois qui n'ont plus vraiment le droit à l'erreur, Antoine Decarne.
Oui, dernier de leur groupe avec un seul petit point. Lille doit s'imposer pour rester dans la course à la qualification. Et dans ce bar de supporters, tout le monde en est bien conscient.
Il faut absolument gagner ce soir.
Pour le club, les supporters, pour tout le monde.
Vu les deux premiers résultats qui ont été défavorables, on n'a plus le choix de ce soir gagner. Parce que même un
un nul, ça ne va pas suffire.
Mais face au FC Séville, de l'international français Jules Koundé, sextuple vainqueur de l'Europa League, le LOSC devra créer l'exploit.
On est capable de le faire. Chef d'orchestre, c'est notre petit Turc, et puis voilà, c'est Burak. S'il est là, il est en forme, tout va suivre.
On espère pouvoir faire honneur au football français et avancer un petit peu au niveau de l'indice UEFA.
Et après la défaite en Ligue 1 contre Clermont ce week-end, Franck, lui, espère une réaction de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec.
On n'a rien contre Gourvennec, mais je pense que ce n'est pas l'homme de la situation, déjà pour commencer. Gourvennec joue déjà très gros ce soir. Donc ce soir, si c'est des bonhommes, on attend une réaction sur le terrain.
Et une victoire ferait du bien. Lille n'a gagné que 6 des 40 matchs de Ligue des Champions disputés dans son histoire.
Antoine de Carnal, Lille pour RTL, Lille-Séville. Ce sera bien sûr à suivre en fil rouge, sur RTL à partir de 21h. Et puis Pascal, on parlait du PSG. Figurez-vous que Kylian Mbappé va désormais avoir un autre rôle, celui de parrain d'une des deux jumelles panda qui sont nées aux eaux de Beauval il y a quelques mois. Écoutez à ce sujet Delphine Delors, c'est la directrice déléguée du zoo.
Il faut savoir que Kylian adore les animaux, qu'il a passé son enfance à regarder des documentaires sur les animaux et qu'il raconte même pour la petite histoire que s'il court si vite, c'est parce qu'il a observé les jaguars courir. Et double bonne nouvelle, Kylian va revenir à Beauval puisqu'il va être présent en personne pour la cérémonie du nom qui aura lieu le 18 novembre. C'est le public français qui va pouvoir voter pour donner leur nom aux petites jumelles panda.
Voilà, on sait pourquoi Kylian Mbappé court si vite, parce qu'il a observé les jaguars. Delphine Delors au micro RTL de Christian Panvert.
Ça fera peut-être réagir nos auditeurs tout à l'heure. Les deux sujets qui arrivent, la hausse des prix des carburants, quelques jours c'est devenu l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Alors qui propose quoi ? Ce sera le premier débat et puis à 12h50 on parlera des déserts gynécologiques.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je pense qu'il faut que l'État cesse de s'enrichir quand les Français s'appauvrissent. Et c'est ce qui se passe en ce moment, avec les taxes. Et des surtaxes aussi. Donc il faut baisser les taxes ou les stopper. Dans l'urgence, il faut prendre des mesures simples.
C'était ce matin sur RTL, Michel Barnier qui réclame une baisse ou un blocage des taxes pour faire face à la flambée des prix du carburant. Sujet ô combien sensible, qui plus est à moins de 6 mois de la présidentielle. Alors justement, qui propose quoi ? Qu'est-ce que ça coûterait ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Baisser les taxes, le candidat à l'investiture de la droite, Michel Barnier, n'est pas le seul à le proposer.
Eh oui, proposition phare des candidats de la gauche en particulier. Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, tous proposent une baisse des taxes. On rappelle que dans le plein que vous payez à la pompe, vous avez 60% de taxes. Même idée pour Marine Le Pen qui veut faire baisser la TVA de 20 à 5,5% comme pour les biens de première nécessité. Alors le problème de cette mesure, c'est que cela coûte très cher. Très vite, une baisse d'un centime, c'est 500 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État, selon Bercy. 10 centimes, c'est 5 milliards de pertes. L'intérêt de cette mesure, c'est que tout le monde en bénéficie, et pas seulement une partie ciblée, choisie des Français. Vous savez, c'est ce que Xavier Bertrand avait fait dans les Hauts-de-France, avec un chèque carburant réservé aux foyers modestes de 20 euros par mois.
Autre proposition, celle de Valérie Pécresse, elle veut mettre à contribution les entreprises.
Oui, c'est le moyen pour elle de ne pas creuser la dette. L'idée, c'est de permettre d'augmenter les plafonds kilométriques. Vous savez, quand vous vous déplacez dans le cadre de votre travail, une partie du carburant est remboursée par votre employeur. Ça dépend de votre voiture, de votre société. Eh bien, le but, c'est que les entreprises qui le souhaitent augmentent ce plafond, prennent leur part. L'État, dit-elle, pourrait faire de même pour certains fonctionnaires, comme les infirmières.
Dernière proposition, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, une mesure choc. Lui, il veut carrément revenir au prix d'avant la hausse.
Oui, il veut, dit-il, bloquer les prix et retenir le niveau d'avant crise. Mais cela veut dire ni plus ni moins que baisser les taxes, puisque l'exécutif n'a aucune prise sur les cours du pétrole. La seule chose qu'il puisse faire, c'est faire varier la part des taxes avec une taxe flottante, par exemple. Alors j'ai juste essayé de chiffrer à la louche dans les grandes masses un tel blocage. Si on prend par exemple le niveau de septembre 2019, on était à peu près à 23 centimes moins cher pour le litre de sans-plomb, donc cela coûterait près de 12 milliards d'euros tout de même.
12 milliards en effet. Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'RTL.
Le deuxième sujet du jour, les déserts gynécologiques. Ça, c'est un sujet extrêmement important. 13 départements n'ont aujourd'hui plus du tout de gynécologues. On va avoir un coup de projecteur avec Sophie Orange dans une seconde.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
À Andlau-Blancheville, comme partout dans le département, se soigner rime avec...
Se débrouiller pour trouver les spécialistes. C'est vrai qu'on va beaucoup sur Dijon, Troyes, des fois Reims.
130, 170 kilomètres pour se soigner, pour consulter un spécialiste. C'est aujourd'hui le quotidien de millions de Français, comme cette dame qu'on vient d'entendre. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
On parle très souvent des déserts médicaux. On découvre aujourd'hui que 13 départements n'ont carrément plus du tout de gynécologues.
On parle bien des gynécologues médicaux. Vous voyez la différence entre gynécologues médicaux et gynécologues obstétriciens, Pascal ?
Celui qui accouche. Alors, c'est pour ça que vous êtes là.
Voilà, gynécologues obstétriciens, ce sont ceux qui sont à l'hôpital qui accouchent les femmes. Là, on parle des gynécologues médicaux qui sont dans leur cabinet, en ville, qui voient les femmes pour des frottis, pour délivrer la contraception, mettre des implants, suivre les jeunes filles, etc. Donc, dans 13 départements, plus de gynécologues médicaux. On les cite, pas tous, quelques-uns, les Hautes-Alpes, la Corrèze, le Loir-et-Cher, Lyon, le Haut-Rhin. Ça concerne presque 2 millions de femmes sur les 11 millions de femmes qui vivent dans les zones rurales. Si on compare à ce qui se passe en ville, à Paris, par exemple, donc 2 millions d'habitants, pas que femmes, habitants, 113 gynécologues, 48 dans les Bouches-du-Rhône pour le même nombre d'habitants. Donc, dans les départements ruraux, les femmes, dans 13 départements, ne peuvent plus aller voir de gynécologue. Vous allez me dire, elles peuvent aller voir un médecin généraliste, mais tous les médecins généralistes ne font pas de frottis, n'ont pas le temps de faire un suivi des femmes. Heureusement, sont arrivées des sages-femmes. Leur nombre a été multiplié par 3 en 40 ans, mais toutes ne sont pas non plus au cœur de la ruralité. On peut citer aussi les pharmaciens qui assurent un énorme suivi de ces femmes. Et les pharmaciens, il y a un quota. Il y a un nombre de pharmaciens en fonction du nombre d'habitants. Donc il y a forcément des pharmacies près de chez vous. Mais ce sont plutôt des palliatifs. Alors pourquoi ce problème des gynécologues médicaux ? Parce qu'en fait, cette spécialité est typiquement française, avait complètement disparu il y a 20 ans. On avait arrêté de former ces gynécologues de ville. Donc forcément, on est au creux de la vague, les retraités n'ont pas pu prendre leur retraite, c'est-à-dire qu'ils voulaient prendre leur retraite, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans ? On reforme à nouveau ces gynécologues médicales. Par exemple, il y a 84 postes qui ont été ouverts là à la rentrée, occupés par 100% par des femmes. Alors pourquoi je dis c'est parce que ça change en fait. Quand les femmes arrivent dans un métier, 100% de femmes gynécologues, ça veut dire qu'il y a plus de temps partiel. Et puis ces femmes, elles ne vont pas forcément dans les zones rurales. Pourquoi ? Elles ont un mari qui a du mal à trouver du travail. Donc vous voyez, on forme des gynécologues médicales à nouveau, mais elles ne vont pas dans les territoires ruraux. Elles vont en ville, finalement.
Alors, et quand vous avez dit que c'était une spécificité française, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gynécologue de ville en Espagne ou en Angleterre ?
Ils font, c'est le gynécologue obstétricien, ils font les deux.
Ou généraliste.
Voilà. Ils ne font pas juste le suivi. C'est vraiment une spécificité française à laquelle tiennent ces gynécologues médicales.
Sophie, vous restez avec nous. On est avec Annick Billon. Bonjour madame et merci d'être en direct sur RTL. Vous êtes sénatrice de Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. C'est vous qui avez réalisé une partie de cette enquête qu'on découvre là avec Sophie Orange. Un mot d'abord, pas de gynécologue pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire pas ou moins de suivi, même si on l'a dit, il y a les sages-femmes, les généralistes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusqu'à dire que ce sont des cancers du sein, du col de l'utérus ou autres qu'on pourrait éviter ?
Ça, c'est évident, puisque le gynécologue médical, et ça a été très bien expliqué par ma prédécesseure, a cette mission de détecter, de prévenir. Et donc, ce sont autant de femmes en âge de consulter qui n'ont pas la possibilité de consulter dans ces départements, mais pas uniquement dans ces 13 départements. Je ne souhaiterais pas qu'on se limite à ces 13 départements, parce qu'en réalité, il y a 77 départements qui sont en dessous du seuil moyen pour avoir une bonne gynécologie médicale. Donc c'est énorme. En réalité, le problème, il touche 13 départements beaucoup plus durement. Mais au-delà de ça, 77 départements sont aujourd'hui en déficit de gynécologie médicale.
77 départements, effectivement, c'est énorme. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver une solution ? Des gynécologues, on n'en trouve pas comme ça, quoi.
Eh bien écoutez, dans certains départements, et le travail qui a été mené au Sénat avec ce rapport femmes et ruralité, eh bien piste et relève des bonnes pratiques, et il faut diffuser ces bonnes pratiques. C'est par exemple la médecine itinérante, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui imaginer une médecine itinérante pour informer, pour prévenir, pour détecter. C'est la téléconsultation, c'est des centres périnataux de proximité, et c'est aussi rendre attractif et revaloriser, rendre attractif le métier de gynécologue médical et aussi revaloriser le statut et le métier de sage-femme. Ça a fait l'objet de différentes manifestations ces dernières semaines. Et donc, vraiment, il y a des solutions à mettre en place. Il y a des solutions qui se développent dans des départements avec des bonnes pratiques. Donc, le rapport enflèche déjà certaines. Et donc, il faut absolument se mobiliser. Nous sommes au mois d'octobre rose. Mobilisons-nous pour que la prévention fasse partie aussi de l'accès aux soins. Mais cet accès aux soins, c'est aussi l'accès à tous les services publics qui est fléché dans le rapport.
Je vais vous poser une autre question qui s'adresse d'abord à la femme que vous êtes et politique aussi. On a l'impression que ces sujets qui touchent les femmes et uniquement les femmes sont souvent encore aujourd'hui en 2021 un peu mis de côté. Alors je pense à d'autres sujets comme l'endométriose ou comme ça, mais sous prétexte que c'est un truc de nana, comme on dit.
D'ailleurs Pascal, vous dites plus rien depuis tout à l'heure.
C'est un sujet que je maîtrise assez mal.
Mais ça vous révolte pas de savoir que dans 77 départements,
Moi je le découvre comme vous, et c'est la question que je voulais poser à Sophie. Est-ce qu'on a vu ça venir et elle y a répondu d'une certaine manière. Mais vous pensez au fond dans votre question que si c'était ça ne concernait pas les femmes.
Je m'interroge en tout cas. Voilà. Annick Billon.
Eh bien, en réalité, notre rapport est beaucoup plus large que sur les déserts médicaux, et on s'aperçoit que les difficultés en milieu rural, elles sont dans tous les domaines. Dans l'orientation, dans la formation, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès aux responsabilités politiques. Donc oui, c'est un déficit aujourd'hui d'intérêt. On a évoqué souvent les sujets des femmes invisibles dans certains métiers. Eh bien, c'est une certaine invisibilité de ces femmes en milieu rural qui sont isolées, qui n'ont pas accès aux services publics comme d'autres femmes en milieu urbain. C'est des femmes qui n'ont pas accès au centre d'hébergement à proximité lorsqu'il y a des violences conjugales, qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès à l'université parce que dans leur territoire, eh bien, il y a une question de mobilité.
Au permis de conduire aussi, je crois.
Au permis de conduire. Et vous avez raison de flécher ce sujet parce que la mobilité, on l'a vu sur les 10 mois que nous avons travaillé avec les 8 co-rapporteurs, eh bien, la mobilité, on la retrouve dans toutes les thématiques. C'est-à-dire que pour aller soigner, il faut être mobile. Pour aller accéder à un service public, il faut être mobile. Pour accéder à l'université, il faut être mobile. Donc nous faisons 70 propositions dans ce rapport femmes et ruralité, et notamment sur la mobilité avec la proposition du code de la route à intégrer dans les cursus d'éducation nationale, par exemple.
Merci Sophie Orange, merci beaucoup madame. Il y a une image qui a fortement choqué Hortense Crépin tout à l'heure. Et vous avez peut-être écouté le journal, et on va y revenir. Et sans doute aussi beaucoup choqué beaucoup de journalistes, puisqu'Éric Zemmour, au Salon mondial de la sécurité intérieure des États, a pris la pose arme au poing et n'a pas hésité à viser les journalistes. Et on avait cette petite conversation avec Amandine Bégaud hors antenne. Journaliste choqué, peut-être vous, auditeur choqué par cette mise en scène d'Éric Zemmour. Je pense que ça va être un de nos premiers sujets. Vous allez pouvoir nous dire si on a le droit de tout faire, au fond, lorsqu'on est candidat putatif à l'élection présidentielle, même si c'est de la provocation. Mais est-ce qu'un président ou est-ce qu'un candidat président devrait faire ça? Voilà une bonne question. À tout de suite.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.